Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite à tous un excellent sabbat. Il y a parfois des choses qui se passent dans la vie qui nous laissent perplexes. On se demande comment certaines personnes peuvent faire ce qu'elles font. Les auteurs d'attentats suicides, par exemple. Qu'est-ce qui pourrait motiver un jeune homme ou une jeune mère de famille même à se faire sauter afin de tuer d'autres personnes? Ce genre d'activité, ce genre de choses résulte des croyances profondes qui animent une personne. Dans le cas d'un auteur d'attentat suicide, ce serait souvent des convictions religieuses ou des croyances concernant comment leur Dieu pourrait leur récompenser pour leur activité. Voilà un exemple de croyance qui mène à une action. La croyance peut être vraie ou fausse, mais c'est la croyance qui motive l'action. La vie de la personne devient l'expression de ses croyances profondes. Dans la Bible, il est souvent question de croyance, de foi, du genre de croyance qui mène à l'action. Il est aussi souvent question d'un manque de croyance et les résultats néfastes de ce manquement. Dans Hébreux chapitre 3, verset 12, par exemple, Hébreux chapitre 3, verset 12, nous avons un exemple. L'Épître aux Hébreux chapitre 3, verset 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité, une manque de croyance, une manque de foi, peut pousser quelqu'un à se détourner de Dieu. Alors, nous voyons les deux opposés. Une croyance peut vous motiver à faire une chose, une manque de croyance peut nous motiver à ne pas faire une chose ou à faire une chose qui serait néfaste. Le sujet de la foi, de la croyance, est très important dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean compte 21 chapitres, et de ces 21 chapitres, Jean parle de la croyance environ 90 fois. Considérons les derniers versets de cet évangile, Jean 21, verset 24. Les deux derniers versets dans cet évangile. Jean écrit, « C'est ce disciple qui rend témoignage de ces choses. » et qui les a écrites. Et nous savons que son témoignage est vrai. Jean était témoin oculaire des choses qu'il avait écrites dans son évangile. Verset 25, « Jésus a fait encore beaucoup d'autres choses. Si on les écrivait en détail, je ne pense pas que le monde même pourrait contenir ces livres qu'on écrirait. » En d'autres termes, ce serait fascinant de savoir ce qui n'a pas été inclus dans cet évangile, mais l'idée est que sous l'inspiration divine, Jean et les autres évangélistes ont fait un choix dans ce qu'ils ont préservé, et Dieu a guidé ce choix. Ils ont été inspirés à inclure ce qu'il fallait inclure, et éventuellement de laisser de côté des choses qui n'étaient pas nécessaires d'ajouter. Dieu, à travers eux, a sélectionné ce que nous devons lire afin de comprendre ce que Jésus fait, ce qu'il a fait quand il vivait sur terre. Jean chapitre 20, verset 30 maintenant. Jean chapitre 20, verset 30 et 31. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Jean a sélectionné, sous l'inspiration divine, des exemples des faits et des gestes de Jésus pour que nous croyions que Jésus est le Christ, le Messie, et qu'il est le Fils de Dieu. Ce serait fascinant de savoir tout ce qui n'a pas été inclus dans cet exemple-là, ou dans ces exemples. Dans le verset 30 que nous venons de lire ici, c'est marqué que Jésus a encore fait, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres, et M. Segond a choisi le mot « miracle ». Mais le mot en grec a un sens plus riche que simplement un miracle. D'ailleurs, le mot est peut-être mieux traduit par « signe ». Quand on regarde le mot dans le grec, c'est « semeia », qui veut dire un signe miraculeux, un miracle qui porte un message, qui doit montrer quelque chose. Et la Nouvelle Bible Second traduit ce mot, semeia, par signe, justement. Selon le commentateur William Barclay, signe se réfère parfois à un miracle qui transmet un message. Je cite, « Chaque acte que Jésus a accompli n'était pas seulement une action dans le temps, mais aussi une fenêtre qui permet de voir la réalité. Les miracles permettaient des aperçus de ce que Dieu fait toujours et ce que Jésus est toujours. Ce sont des fenêtres qui donnent sur la réalité divine. » Alors nous allons regarder certains des miracles de Jésus et nous allons voir ce que nous devons apprendre de cela. Le récit de Jean préserve le moins de miracles des quatre évangélistes. Il y a plus de miracles ou de signes dans les autres évangiles. Mais ce que Jean a préservé était particulièrement important, choisi avec un but spécifique en tête. Et ce but était de convaincre le lecteur de faire croire la vérité que Jésus-Christ est le Messie, celui promis par les prophéties de l'Ancien Testament, et qu'il est le Fils de Dieu. Et comme nous avons lu au verset 31, « Et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Ça, c'était le but de Jean, en choisissant ces différents miracles. La croyance est liée à la vie éternelle, ainsi que la qualité de la vie ici-bas. Dieu veut que nous croyions au point où nous nous mettions en pratique tout ce que Jésus a dit de faire, que nous nous soumettons entièrement, que nous ayons une foi active. Dans l'évangile de Jean, il y a 7 miracles, 7 signes miraculeux, 7 miracles qui transmettent un message pour nous aider à arriver à la conclusion que nous avons déjà répété plusieurs fois. Je vous propose donc aujourd'hui de survoler ces 7 miracles. Peut-être que quelqu'un pourrait croire, mais je crois déjà. Pourquoi aurais-je besoin d'être convaincu que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu? Je le crois déjà. Quelqu'un a dit qu'il y a beaucoup de vérités que nous ne nions pas, mais que nous ne croyons pas pleinement non plus. Il y a des degrés de croyance, des degrés de foi. Nous voulons croire pour avoir une compréhension plus positive qui va mieux nous motiver à changer nos vies. Parmi le peuple de Dieu, il y a des gens avec différents niveaux de foi. Vous l'avez peut-être remarqué, il y a des membres qui traversent des épreuves sérieuses et pourtant ils sont passionnés par le plan de Dieu et la mode de vie de Dieu. Ils ont la joie malgré des épreuves pesantes. Ils sont positifs et non pas abattus. D'autres frères, qui ont des épreuves beaucoup moins sévères, n'ont pas la même qualité de vie chrétienne. Ils sont abattus. Ils ne sont pas passionnés par la voie chrétienne. Ils n'ont que peu de joie dans leur vie. C'est cela que je veux dire quand je dis qu'il y a des niveaux de foi différents selon les personnes. Aucun chrétien ne veut avoir des doutes, mais cela peut arriver. Notre foi n'est pas une chose statique non plus. Une foi acquise n'est pas toujours acquise en ce qui concerne notre foi. Parfois, la foi peut être plus forte, parfois moins forte. Alors, nous devons maintenir notre foi et faire en sorte que notre croyance se fortifie et s'accroisse à travers le temps. En regardant ces sept miracles aujourd'hui, nous voulons nous concentrer sur trois choses. Trois choses en particulier. Premièrement, le fait que ces miracles prouvent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Parce que seul Dieu a le pouvoir d'accomplir ces miracles. Un être humain ne pourrait pas le faire. Deuxièmement, nous voulons voir davantage comment Dieu est en réalité. C'est important pour nous de comprendre notre Père céleste, le Dieu que nous servons, que nous adorons. Et troisièmement, nous allons voir que ces miracles, bien qu'ayant eu lieu il y a des siècles, enseignent des leçons qui sont encore applicables de nos jours et dans nos vies. Commençons. Premier miracle, Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Verset 1. Jean chapitre 2, verset 1. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Ce n'est pas le moment de commencer mon ministère, je ne dois pas commencer des miracles encore. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun deux ou trois mesures. Jésus leur dit, « Remplissez d'eau ces vases et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez à l'ordonnateur du repas. » Et ils lui en apportèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Tel fut le commencement des signes miraculeux de Jésus. Les signes, comme j'ai dit, c'est traduit ainsi dans la Nouvelle Bible Second. L'ordonnateur de la fête était surpris parce que le meilleur vin, normalement, on ne le garde pas pour la fin, on le garde au début. Ce n'est pas que les gens s'enivraient vraiment, mais ils étaient plus détendus, ils ressentaient l'effet du vin, et là, on sortait la piquette après, et personne ne s'en rendait compte. Jésus a répondu à sa mère avec respect. Il a dit, je m'en occuperai au mieux. Et vous avez probablement entendu déjà ces mesures, à combien ça montait, mais il y avait entre 500 et 700 litres de vin que Jésus a miraculeusement créé ici. Nous devons savoir que le vin était beaucoup moins fort à l'époque, ce n'était pas le 11 ou 12 ou 13 degrés que nous avons aujourd'hui. Mais Jésus a accompli ce premier miracle avant le temps prévu par lui et son père pour honorer sa mère. La Bible nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et nous voyons ici comment il est. Il a de la compassion. Il a accompli un miracle pour un tout petit besoin, simplement avoir du vin aux noces. Il avait de la considération, de la douceur et de la gentillesse, du respect envers sa mère, envers sa famille, et de la miséricorde envers ceux qui l'ont entouré. William Barclay a écrit à propos de ce passage, « Pour une fête chez les Juifs, le vin était essentiel. » Non pas que les gens s'enivraient, l'ivresse était en fait une terrible disgrâce, et ils ont donc bu le vin dans une composition de deux parts de vin pour trois parts d'eau. C'était du vin dilué, et même au commencement, le vin n'était pas à 11 ou 12 degrés, c'était moins que ça. L'hospitalité était un devoir sacré, je continue la citation. Manquer de vin lors des noces aurait été une terrible humiliation pour les mariés. Le résultat de ce miracle, ses disciples ont cru. Déjà avant le mariage, dans Jean chapitre 1, verset 49, Nathanaël avait déjà dit « Tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël ». Alors, il y avait une certaine croyance déjà, mais ce miracle a fortifié leur foi. Ils avaient plus de croyance, plus profonde, plus forte qu'ils n'en avaient eu avant. Une démonstration de la puissance de Dieu a ouvert leurs yeux davantage. Aucun homme normal ne pourrait faire une chose pareille. Dieu peut transformer les choses. Il peut changer de l'eau en vin. Il peut changer notre caractère en son caractère, le caractère divin. Nous devons croire dans ce pouvoir. Il devrait être important à nos yeux, la capacité de Dieu de nous transformer. Deuxième miracle, Jean chapitre 4, verset 46. Jean chapitre 4, verset 46. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. » L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avec moi avant que mon enfant meure. »« Va, » lui dit Jésus, « ton fils vit. » Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendit, déjà ses serviteurs venaient à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, « Ton enfant vit. » Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux et lui dirent « Hier, à la septième heure, la fièvre l'a quitté. » Le père reconnut que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit « Ton fils vit. » Et il crut, lui et toute sa maison. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Apparemment, Jésus a dit à ceux qui l'entouraient, « Si vous ne voyez, si vous ne croyez pas, si vous ne voyez des miracles. » Cet homme-là avait déjà la foi. Cet officier du roi pensait que Jésus devait être présent personnellement pour guérir son fils. Une raison d'accomplir la guérison de cette façon-là, à distance, comme il a fait, était de faire la démonstration que Dieu peut guérir n'importe quand et n'importe comment. Il peut guérir à distance, sans présence physique. Et puis, il a cru. Quand Jésus a dit, « Ton fils vit », il a cru. Il n'a pas pressé Jésus de venir quand même. Jésus a dit, « C'est fait », et il a cru. Il a fait demi-tour, et il est rentré chez lui à quelques 30 kilomètres de distance, parce qu'il croyait à ce que Jésus lui avait dit. L'officier lui a cru sur parole, et cela a eu un grand impact sur lui et sur sa famille. Encore une fois, au-delà des capacités d'un homme ordinaire, Jésus est le Fils de Dieu, et comme tel, il a guéri le fils de cet homme. Ce miracle montre aussi le souci de Dieu pour les gens, pour les malades, pour les petits. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. De plus, Dieu peut nous guérir. Dans Exode chapitre 15, verset 26, il dit « Je suis l'Éternel qui te guérit ». Dieu intervient pour guérir, pour nous guérir dans nos vies. Dieu peut guérir et il guérit encore aujourd'hui. Ce n'est pas limité au passé. Nous devons avoir foi dans la capacité de Dieu de nous guérir. Mais deuxièmement, nous devons croire que Dieu sait ce qu'il fait. Parfois, il guérit quand c'est pour notre bien, et parfois, il attend quand ça serait pour notre bien. Il sait le meilleur moment pour nous guérir. Dieu voit le grand tableau de nos vies dans la perspective de l'éternité et il agit en conséquence. Il sait quand c'est mieux d'intervenir tout de suite, il sait quand c'est mieux d'attendre. Il n'agit pas toujours comme nous ne le voudrions, ni quand nous le voudrions, mais il a le pouvoir, la capacité, et il sait beaucoup plus que nous. C'est bien que c'est sa décision de décider le moment de nous guérir. Ces deux éléments doivent être importants pour nous. Si l'un ou l'autre de ces articles de foi manque, nous ne pourrons pas avoir la qualité de vie chrétienne que nous devrions avoir. Nous pourrions devenir frustrés ou même en colère contre Dieu sans la compréhension que Dieu sait tout, il est miséricordieux et il est bon. Troisième miracle, Jean chapitre 5. Encore une autre guérison, mais avec un autre message supplémentaire cette fois-ci. Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendit de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau, et celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Question intéressante, n'est-ce pas? Peut-être que certains-là préféraient ne pas être guéris. Ils mendiaient ou c'était leur façon de gagner de l'argent. Le malade lui répondit, verset 7, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Le lit, c'était une espèce de matelas. Aussitôt, cet homme fut guéri. Il prit son lit et il marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit, « Celui qui m'a guéri m'a dit, « Prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent, « Qui est l'homme qui t'a dit, « Prends ton lit et marche ?» Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, « Voici, tu as été guéri. Ne pêche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc c'était un tapis, ce n'était pas lourd, les chefs religieux sont passés complètement à côté de la signification de ce qui était important ici. Nous avons noté au verset 14 que Jésus a dit « ne pêche plus ». Un péché était impliqué dans son infirmité, dans la paralysie de cet homme. Toute maladie ne vient pas de péché, mais certains péchés apportent une maladie après. Nous ne devrions pas imaginer que tout problème qui arrive dans nos vies est automatiquement le résultat d'un péché. Mais le péché est parfois un élément. Et si nous sommes malades, nous devons nous poser la question, ai-je fait quelque chose pour m'amener à ce point? Quelqu'un qui boit trop d'alcool et tombe dans l'escalier, se blesse sérieusement, voilà un exemple, un péché qui est amené à une blessure. Qu'est-ce qui a causé ces problèmes? Le péché. Alors le péché peut être une cause de ce genre de choses. Quand nous sommes malades ou que nous avons une épreuve de santé, nous devrions nous demander, suis-je coupable d'un péché qui a contribué à ce problème? Est-ce qu'il y a quelque chose où je dois me repentir, demander pardon à Dieu et rectifier le tir dans ma vie? À la différence du miracle précédent, celui-ci comprend l'élément du péché. Les chefs juifs accusaient faussement Jésus de péché, Mais Jésus avait averti l'homme guéri de ne plus pécher. Ce qui nous montre que seul Dieu a le droit, l'autorité, la sagesse de définir ce qui est péché. Les autorités se sont trompées. Dieu seul donne sa loi. Et Jésus-Christ, comme Fils de Dieu, a l'autorité de pardonner les péchés. Quand nous sommes guéris physiquement, nous pouvons le sentir, la douleur s'en va. Quand nous sommes pardonnés, nous ne sentons rien de physique. Mais par ce miracle, Jésus l'a rendu plus facile de croire en le pardon des péchés. Il a lié la guérison physique au pardon spirituel. Dans le récit de ce miracle, dans Matthieu chapitre 9, verset 5, allons-y, Matthieu chapitre 9, nous avons ce miracle expliqué également par Matthieu, Matthieu 9, verset 5. Verset 5, « Car lequel est le plus aisé ?» Jésus a demandé, « de dire « tes péchés sont pardonnés » ou de dire « lève-toi et marche ». Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur terre le pouvoir de pardonner les péchés, « lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus a bien fait le lien entre les deux choses. Il est très important d'être convaincu que Dieu puisse et que Dieu pardonne, en effet, nos péchés. Parfois, certains membres dans l'Église de Dieu, le peuple de Dieu, ont du mal à croire qu'ils ont reçu le pardon de leurs péchés, ou d'un péché en particulier, peut-être un péché très grave. J'ai déjà eu des personnes me poser la question, mais est-ce que Dieu m'a vraiment pardonné? Est-ce qu'il peut pardonner ça? Et il n'y a pas de limite. Si le repentir est sincère, si nous sommes profondément repentis, nous ne devrions plus nous sentir coupables. Dieu a enlevé le péché. Souvent, quand nous avons des doutes, ça touche une personne, un péché qui a affecté une autre personne avec des conséquences sérieuses. Je connais des personnes qui ont, par accident, tué quelqu'un dans un accident de voiture. Est-ce que Dieu peut pardonner même ça, d'enlever la vie de quelqu'un? Oui, il le peut. Satan voudrait semer des doutes dans ce genre de cas, dans nos esprits. Il voudrait qu'on doute. Il voudrait qu'on se sente coupable, qu'on se sente non pardonné. Alors que Jésus, ou Dieu le Père, par l'entremise de Jésus-Christ, son sacrifice, nous a pardonné. Jésus a bien illustré ici qu'il pardonne nos péchés. Nous n'avons pas de raison pour douter de cela. Quatrième miracle, Jean chapitre 6. Jean chapitre 6, Jésus va nourrir les 5000. Verset 5, Jean chapitre 6, verset 5. « Ayant levé les yeux et voyant une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, « Où achetons-nous des pains pour que ces gens aient à manger ?» Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Et c'est souvent le cas dans la Bible. Dieu sait déjà quelle est la réalité de la situation. Souvent, il sait même ce qu'il va faire par la suite. Mais il commence par poser une question. Ça attire l'attention. On est obligé de se concentrer sur l'effet de la situation du moment. Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, les pains qu'on aurait pour 200 deniers ne suffiraient pas pour que chacun en reçoive un peu. 200 deniers, c'était 6 mois de salaire pour un travailleur. Ça aurait été une forte somme, et là, ils auraient eu qu'une bouchée ou deux. L'un des disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Barclay mentionne ici que le pain d'orge était le pain des pauvres et que les poissons étaient sans doute séchés ou préservés au vinaigre et sans doute très petits, comme des sardines. Comment est-ce qu'on va donner à manger à 5000 personnes avec ça? Jésus dit, faites-les asseoir, Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Certaines estimations voudraient monter jusqu'à 10 000 personnes qui étaient là présentes, peut-être plus. 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'ils en voulurent. Autant qu'ils en voulurent. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent, afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge après que tous eurent mangé. Les gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retirait de nouveau sur la montagne, lui seul. Il nourrit les 5000. Personne ne pouvait douter de ce miracle. Il a nourri entre 5 et 10 000 personnes et ils ont ramassé plus de restes qu'ils n'avaient qu'au début, au départ. Fantastique. Que devons-nous y apprendre? Il y a des gens aujourd'hui qui croient que Jésus existait. Il y avait vraiment un Jésus de Nazareth, mais il n'était rien de plus qu'un homme sage et bon, avec beaucoup de sagesse, qui donnait de bons principes spirituels pour la vie. Encore une fois, ce miracle devrait convaincre les êtres humains que Jésus-Christ n'est pas simplement un homme sage et bon. Il est le Fils de Dieu. Aucun homme ordinaire, même bon et sage, ne pourrait faire un tel miracle. Et encore une fois, nous voyons ici le souci de Dieu pour les gens, son amour sincère. Dieu se soucie de nos besoins physiques, aussi bien que nos besoins spirituels. Même parfois nos tout petits besoins, un repas. Humainement, nous sommes conscients de nos limites. Mais Dieu n'a pas de limites. Il est sans limite. Nous pouvons nous fier entièrement à notre Père Céleste, sachant qu'il comprend nos besoins et il peut accomplir des miracles quand c'est nécessaire pour prendre soin de nous. Cela devrait nous encourager et nous soulager également à travers la vie. Cinquième miracle. Jean chapitre 6, verset 16. Tout de suite après l'autre. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaüm. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque. Ils eurent peur. Compréhensible, n'est-ce pas? Ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque et aussitôt la barque aborda au lieu où ils allaient. Ça, c'est très frappant également. Le lac ou la mer de Galilée est très connu pour ses tempêtes. Il y a des montagnes des deux côtés, les vents arrivent abruptement, ça peut arriver des deux côtés en même temps, et ça crée de grosses vagues. Les embarcations à l'époque étaient petites, évidemment. Vent, vagues, vous ne savez pas bien nager, ça serait encore plus effrayant. Vous ramez. Un stade, c'est un peu moins de 200 mètres. Donc, ça ferait 5 kilomètres plus ou moins qu'ils avaient ramé. Et puis, il y a deux parties à ce miracle. Jésus-Christ marchait sur les eaux. Et deuxièmement, aussitôt qu'ils montaient dans la barque, ils étaient à leur destination. Ils étaient sur l'autre rive. Le bateau se trouvait immédiatement à cette destination. Vous imaginez ça? Vous êtes au milieu du lac, vous aidez Jésus à monter dedans et boum! Vous touchez la plage de l'autre côté. Très frappant pour les disciples. Quelle expérience pour eux. Ils ont dû beaucoup parler de ça après et se demander comment cela s'est fait, comment est-ce qu'on a pu immédiatement arriver. On n'a pas vu passer le temps ni la distance, on était au milieu et puis on était là. J'imagine qu'il a dû avoir des discussions très animées dans les prochaines semaines à propos de ça, de revivre cette expérience. Ici, encore une fois, nous avons des preuves que Jésus est le Fils de Dieu. On voit son pouvoir sur les éléments, sur le vent, sur les vagues, sur l'eau. Les lois de la nature qui gouvernent l'univers, il les maîtrise. Il peut les changer, il peut les calmer, il peut détourner des forces naturelles. Dieu maîtrise ce qui se passe partout. Il peut agir n'importe où, immédiatement. Rien n'est trop gros, ni trop difficile pour notre Dieu. Même quand nous devons expérimenter les forces de la nature de manière négative, et cela arrive, des tempêtes, des tourbillons, feu, etc., nous pouvons toujours prendre courage que tout est maîtrisé par Dieu, notre Père. Il est toujours capable de prendre soin de nous, quelles que soient les circonstances qui nous entourent. Psaume 46, verset 2. Psaume 46, verset 2 dit: Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, pause. Au milieu de tout cela, Dieu est pour nous un refuge et un appui. Sixième signe miraculeux, la guérison d'un aveugle. La guérison d'un aveugle, Jean chapitre 9. Il n'y a pas de miracle préservé dans l'Ancien Testament d'un aveugle né qui soit guéri. Mais il y a plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament concernant le Messie qui a dit qu'il allait guérir les aveugles, leur rendre la vue. Et ce miracle a eu lieu le jour du sabbat, encore une fois. Jésus enseignait des leçons par là également. Jean chapitre 9, verset 1. Jean chapitre 9, verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question: Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Et il va donner la lumière à cet aveugle. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive, puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle. Il lui dit: va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Imaginez ça. Depuis sa naissance, il n'avait jamais rien vu de la vie. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient: n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient: mais c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait: non, c'est moi. Ils lui dirent donc: mais comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit: l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a roint mes yeux, il m'a dit: va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent: où est cet homme? Il répondit: je ne sais. Je ne sais. Une guérison fascinante. Continuons. Verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui a ouvert les yeux. Et selon leur liste pointilleuse de choses à faire ou à ne pas faire, il fallait pas travailler, il fallait Il ne fallait pas faire de la boue. Et il ne fallait pas guérir les gens. De nouveau, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. Sur quoi quelques-uns des pharisiens dirent, cet homme ne vient pas de Dieu, car il n'observe pas le sabbat. D'autres dirent, mais comment un homme pécheur peut-il faire de tels miracles? Et il y eut division parmi eux. Il dit encore à l'aveugle, toi, que dis-tu de lui sur qui t'a ouvert les yeux? Il répondit, c'est un prophète. Les Juifs ne crurent point qu'il avait été aveugle et qu'il avait pu voir, jusqu'à ce qu'ils aient fait venir ses parents. Ils les interrogèrent, disant, « Est-ce là votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc voit-il maintenant? » Ses parents répondirent, « Nous savons que c'est notre fils et qu'il est né aveugle, mais comment il voit maintenant ou qui lui a ouvert les yeux, c'est ce que nous ne savons. » Interrogez-lui lui-même, il a de l'âge. Il parlera de ce qui le concerne. Ses parents dirent cela parce qu'ils craignaient les Juifs, car les Juifs avaient déjà convenu que si quelqu'un reconnaissait Jésus pour le Christ, il serait exclu de la synagogue. C'est pourquoi ses parents dirent, il a de l'âge, interrogez-le lui-même. Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent, donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. Il répondit, « S'il est un pécheur, je ne sais. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit, « Je vous l'avais dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'injurièrent et dirent, « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. » Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Et cependant, il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais on n'a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils lui répondirent, « Tu es né tout entier dans le péché et tu nous enseignes ?» Et ils le chassèrent. On voit beaucoup à propos de leur attitude, n'est-ce pas? Jésus apprit qu'ils avaient chassé et l'ayant rencontré, il lui dit, « Crois-tu au Fils de Dieu ?» Il y répondit, « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui ?»« Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Et il dit, « Je crois, Seigneur. » Et il l'adora. Puis Jésus dit, « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas, point voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui et ont entendu ses paroles lui dire, « Nous aussi sommes-nous aveugles ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant vous dites, nous voyons. C'est pour cela que votre péché subsiste. » Sixième miracle est plus qu'une simple guérison. Jésus a expliqué aussi qu'il y a deux sortes d'aveuglement, physique et spirituel. Seul Dieu peut guérir des aveugles physiques. Seul Dieu peut guérir des aveugles spirituels également. La Bible nous montre que le plan de Dieu veut que la vaste majorité de l'humanité soit aveugle, maintenant, spirituellement. Pendant un certain temps, afin de pouvoir voir et comprendre et recevoir le salut à une époque encore future. Nous comprenons ce plan par les jours saints annuels que nous allons bientôt observer en automne, les fêtes divines. Quand ce sera l'aveuglement général de l'humanité? Cela commencera, cette guérison, au retour sur terre de Jésus-Christ. Au début de son règne millénaire, Jésus a guéri cet homme le jour du sabbat, qui représente aussi le repos spirituel du millénium. Jésus a guéri cet homme le sabbat pour représenter l'époque quand l'aveuglement spirituel de l'humanité sera guéri. Les yeux et les esprits des gens seront ouverts. Nous devons aussi comprendre que nous avons des points d'aveuglement spirituel qui restent encore en nous. Dans un sens, nos yeux sont ouverts au moment de notre conversion initiale, mais la guérison de l'aveuglement spirituel est un processus qui prend un certain temps. Nous devons croître dans notre compréhension spirituelle et demander à Dieu dans nos prières de nous montrer nos points d'aveuglement. Est-ce qu'il y a des choses que je ne vois pas? Est-ce qu'il y a une faiblesse que j'ignore et sur laquelle je devrais travailler? Septième et dernier miracle, la résurrection de Lazare. Jean chapitre 11. Lazare était le frère de Marie et Marthe, une famille étroitement liée dans l'amitié avec Jésus. Et nous avons cet exemple ici très frappant. Verset 1 de Jean 11. Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit du parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs, tout récemment te cherchaient à te lapider et tu retournes en Judée. » Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Mais Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement, « Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui, sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux disciples, « Allons aussi, afin de mourir avec lui. » Il savait que Jésus aimait cette famille, aimait Lazare, et il pensait que Jésus allait mourir de douleur, de tristesse. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans le sépulcre. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » C'est une grande foi, n'est-ce pas? Si tu le demandes, tu peux le ramener à la vie. Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Il lui dit, « Oui, Seigneur, je crois. Je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici et il te demande. » Marthe essaie toujours d'arranger les choses. Jésus n'avait pas vraiment dit ça, mais peut-être pour consoler sa sœur. Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui, car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Verset 35, Jésus pleura. Le verset le plus réduit dans la Bible. Jésus pleura. Sur quoi les Juifs dirent, voyez comme il aimait. Et quelques-uns d'entre eux disaient, lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Et en dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors! Et le mort sortit. Les pieds et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie et qui virent ce que fit Jésus crurent en lui. Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens et leur dire ce que Jésus avait fait. Encore un miracle pour aider ses disciples à croître dans la foi. Nous devons croire que Dieu a le pouvoir même sur la mort, qui semble si finale pour nous. Imaginez l'impact que cela aurait eu de voir Lazare, mort depuis 4 jours, sortir vivant de son tombeau. Incroyable, époustouflant. Les gens présents devaient être absolument abasourdis. Comment c'est possible? Et Lazare aussi, qui se réveille dans une tombe, dans un linge d'enterrement avec des aromates et des parfums tout autour. Les gens lui expliquent, tu étais mort pendant 4 jours. Tu sentais mauvais déjà. Ce 7e miracle est l'ultime signe. Le grand miracle, le plus grand miracle que Jésus a accompli. Dieu a pouvoir même sur la mort. Dieu n'a pas de limite. La mort ne fait pas obstacle à Dieu. La Bible dit aussi qu'un jour Dieu va ressusciter tous les morts. Jésus parlera et les morts vont se réveiller et sortir de leur tombe. Nous comprenons les 3 résurrections. Nous comprenons l'ordre des 3 qui en fera partie. Mais cela peut rester assez théorique pour nous, surtout si nous sommes jeunes et en bonne santé. Mais quand nous perdons un être cher et nous assistons aux funérailles, quand nous ressentons la perte qui vient de la séparation, du coup, le pouvoir de Dieu sur la mort prend une signification beaucoup plus profonde et plus précieuse. Par ces 7 miracles, nous voyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, qu'il a le pouvoir de changer la nature des choses, les choses dans ce monde. Il a le pouvoir de guérir nos corps. Il a l'autorité de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de pourvoir à nos besoins. Il peut guérir l'aveuglement spirituel et l'aveuglement physique. Et il a le pouvoir de ressusciter les morts et de donner la vie. Au début du sermon, nous avons lu Jean chapitre 20, verset 31. Ceux-ci sont écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette croyance, vous ayez la vie en son nom. Il est question de la vie éternelle en son nom. Mais ces 7 miracles nous parlent aussi de tous les besoins et les circonstances de la vie. La conversion, la guérison physique et spirituelle, le pardon des péchés, nos besoins physiques, nos circonstances physiques, nos besoins spirituels, les besoins de l'Église et finalement la vie éternelle. Croire au message de ces 7 miracles devrait avoir un grand impact sur nos vies. Notre foi n'est pas basée sur les signes ou les miracles qui ont lieu aujourd'hui. Notre foi se base sur ce que le Père et le Fils ont déjà fait. et aux nombreux témoignages qui ont été donnés par les gens qui les ont vus. Les miracles que nous pouvons lire dans les passages de la Bible. Et nous croyons. Dernier passage dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, verset 5. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Il est crucial que nous croyons cela, que nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu. Selon un article dans le Figaro au mois de septembre 2021, je cite, un peu plus de la moitié, 51% des Français ne croient pas en Dieu, selon un sondage IFOP pour l'Association des journalistes d'information sur les religions. À la question, vous personnellement croyez-vous en Dieu? 51% des sondés répondent non, contre 44% en 2011 et en 2004. Les Français étaient 66% à croire en Dieu en 1947, selon un sondage IFOP de l'époque. Dans le détail, les plus croyants sont chez les 65 ans et plus, 58%, puis chez les 18 à 34 ans, 48%. Beaucoup de gens ne croient pas que Dieu existe. D'autres croient que Dieu existe, mais il n'est pas impliqué dans nos vies, il n'intervient pas dans les affaires des êtres humains. Il n'est pas suffisant d'imaginer nos propres idées à propos de Dieu. Nous devons croire ce qui est déjà écrit dans la Bible à propos de Jésus-Christ. Nous devons croire qu'il est le Fils de Dieu et nous devons suivre son enseignement. J'espère que ces 7 miracles que nous avons vus aujourd'hui vont renforcer notre foi, que ces miracles auront un impact dans nos vies et notre croyance, notre foi, que nous serons stimulés dans notre foi pour obéir à notre Père céleste et vivre nos vies comme il veut.